Esprit, ainsi soit-il. Nous entrons dans le temps de l'Avent. L'Avent liturgique, c'est Don Guéranger qui l'explique dans sa célèbre année liturgique, évoque un triple avènement. Nous fêtons trois avènements pendant le temps de l'Avent. Un avènement passé, un avènement présent et un avènement futur. L'avènement passé que l'Avent nous fait revivre, c'est l'avènement historique de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue dans le monde il y a 2000 ans. Et à ce point de vue, les quatre semaines de l'Avent figurent les 4000 ans de l'attente du Sauveur, lorsque l'humanité, héritière du péché originel, assise à l'ombre de la mort, comme disent les prophètes, attendait son Sauveur et préparait sa venue. Donc pendant tout ce temps de l'Avent, nous allons nous unir à toute cette prière des saints, des patriarches, des prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, pendant cet Avent, nous allons aussi célébrer l'avènement présent de notre Seigneur, c'est-à-dire son avènement mystique dans nos âmes, sa venue dans nos âmes par la grâce. Cet avènement se reproduit sans cesse dans les âmes bien disposées, bien préparées à recevoir la visite de notre Seigneur. Et pendant tout ce temps de l'Avent, l'Église, justement, veut nous préparer à cette visite de notre Seigneur dans nos âmes à Noël. Jésus se tient à la porte de notre cœur, il frappe, il faut lui faire la place, il faut préparer la place. Toute la prédication de Saint Jean-Baptiste que nous entendrons dans la liturgie est là pour nous disposer justement à bien préparer nos âmes. Parce que notre Seigneur veut demeurer en nous, y grandir, y renouveler sa présence, son action sanctifiante et notamment par le don de la Sainte Eucharistie. L'Avent doit nous apprendre à communier de mieux en mieux. Et puis enfin, l'Avent célèbre aussi l'avènement futur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est encore à venir, son avènement glorieux, lorsqu'il reviendra à la fin du monde pour juger les vivants et les morts. Et c'est cet avènement dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui que nous venons d'entendre. Et la liturgie reviendra souvent, pendant ce temps de l'Avent, sur cette grande vérité. Alors que le premier avènement de Jésus, son avènement historique, a eu lieu dans la faiblesse et dans l'humilité, dans la crèche, ce dernier avènement s'accomplira avec tout l'éclat que sa divinité confère à notre Seigneur. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Saint Luc s'exprimait ainsi, c'est notre Seigneur qui parle. Alors les hommes verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande majesté. Une grande puissance et une grande majesté. Cet avènement glorieux, encore à venir, ce retour de notre Seigneur à la fin des temps, on en parle peu parce qu'il est mystérieux. Nous ne savons pas très bien, nous connaissons ces choses par les prophéties que la Sainte Écriture nous en donne, mais les prophéties, tant qu'elles ne sont pas accomplies, sont toujours un petit peu mystérieuses. Et puis nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et pourtant, l'Église veut que nous méditions cet avènement et que nous nous y préparions. Et Dieu a voulu en tracer les traits principaux dans la Sainte Écriture pour précisément que nous méditions ces choses. Et c'est pourquoi ce matin, nous voudrions en dire quelques mots. D'ailleurs, cette méditation de la venue du Christ à la fin des temps, qui doit donc nous occuper pendant tout cet Avent, faisait les délices des premiers chrétiens. C'est étonnant. Ces premiers chrétiens qui pourtant étaient, ils pouvaient du moins le penser, bien éloignés de la fin des temps, eh bien ils aimaient à méditer ces grandes vérités. On trouve dans la littérature chrétienne des tout premiers siècles plusieurs textes sur la parousie. Ces chrétiens des premiers âges, qui étaient encore tout pleins de l'enseignement apostolique, ne croyaient pas s'égarer en méditant sur la fin des temps et la venue de notre Seigneur à la fin des temps. Est-ce parce que dans leur naïveté, c'est du moins ce que disent les modernistes, est-ce que ces chrétiens, dans leur naïveté, croyaient la parousie imminente, toute proche? On dit cela. Les modernistes ont tenu cette théorie plutôt. C'est pas vrai du tout. Ces chrétiens savaient très bien que nul ne connaît le jour ni l'heure. Ils ne s'attendaient pas à ce que la parousie soit imminente. Mais ils voyaient et c'est ça qui pour nous est plein d'enseignements, il voyait dans l'évocation du retour du Christ un motif très puissant pour s'encourager à la vigilance, à la perfection, et pour se préparer soi-même à la rencontre individuelle de nos âmes avec le Christ juge, à l'heure de notre mort. C'est une très belle préparation à la mort, et c'est aussi quelque chose auquel il nous faut penser pendant l'Avent. L'Avent est une préparation à la grande rencontre que tous nous aurons avec le Christ juge. Par exemple, il y a dans les tout premiers textes de la patrologie un petit opuscule qui est très petit, il ne fait que quelques pages, qu'on appelle la didaké. C'est un mot grec qui veut dire doctrine, enseignement. C'est la doctrine des 12 apôtres. Ce petit texte date, pense-t-on, de 70 à 90 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, notez-le, avant même que le corps des Écritures du Nouveau Testament soit achevé. L'Apocalypse, par exemple, n'était pas encore rédigée. Elle date de 95 ou 96. Eh bien, ce petit texte patristique consacre tout un chapitre à la parousie. Sur les 16 chapitres de ce petit livre, il y en a un qui est tout entier consacré à la parousie. Dans ce petit texte, qui est anonyme, c'est l'enseignement moral et liturgique qu'on donnait aux catéchumènes qui est exposé. On préparait les catéchumènes au baptême, et notamment on leur enseignait les deux voies. C'est un enseignement qui était très souvent donné dans l'Antiquité chrétienne. La voie du bien, ou la voie de la vie, et puis la voie du mal, ou la voie de la mort. Il nous faut choisir. Il n'y a pas de troisième voie. Le chrétien doit choisir la voie chrétienne, la voie du bien, et se donner tout entier à Jésus-Christ. Et ce petit enseignement qui préparait donc les catéchumènes au baptême se termine par un chapitre sur la parousie. Je vous en lis juste une phrase pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de ces très beaux textes. Le texte dit, donc on s'adresse aux catéchumènes, « Veillez sur votre vie, ne laissez pas s'éteindre vos lampes. » C'est une allusion évidemment à la parabole des vierges sages et des vierges folles. « Ne laissez pas s'éteindre vos lampes, ni se détendre la ceinture de vos reins. » Notre Seigneur dit cela dans l'Évangile, « Que vos reins soient saints. » C'est une image qui évoque la vigilance. « Car vous ignorez l'heure où le Seigneur viendra. » Vous voyez comme cet enseignement est encore tout pénétré de la saveur de l'Évangile. Ainsi donc, nous avons de grands fruits à retirer de la considération de ces événements des derniers temps que nous décrivent l'Écriture. Des fruits de vigilance, des fruits de conversion, des fruits de foi, des fruits de fidélité. Par exemple, saint Grégoire le Grand, en plagiant en quelque sorte le texte de saint Luc, écrit ceci, « Voici l'heure de la nuit. » Il parle du temps dans lequel il vivait. Que pourrions-nous dire aujourd'hui ?« Voici l'heure de la nuit, l'heure de la puissance des ténèbres. » Tout comme au moment de la passion de Jésus, et maintenant c'est la passion de l'Église. « Veillez afin que votre lampe ne s'éteigne pas. Priez afin que l'engourdissement et le sommeil ne vous gagnent pas. » On peut dire d'une certaine manière que plus on avance dans le temps, plus nous sommes menacés précisément par l'engourdissement et le sommeil. Alors il est important, pendant ce temps de l'Avent, de se réveiller, et pour cela la considération du dernier avènement, du retour de notre Seigneur en gloire et en majesté, ne peut que nous y aider. Alors prenons un exemple précis, tiré de Bossuet, dans le commentaire qu'il donne du texte de l'Évangile que nous avons aujourd'hui. Le texte de saint Luc. Saint Luc, dans le verset qui précède immédiatement le début de l'Évangile d'aujourd'hui, écrit ceci. « Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Cette simple petite phrase résume en quelque sorte toute l'histoire de l'Église, depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour à la fin des temps. C'est le temps des gentils. Le temps de la prédication de l'Évangile, le temps des nations. Et au terme de ce temps des nations, il y aura la conversion d'Israël. Tempora nationum, c'est l'expression qui est employée par l'évangéliste. Le grec a le mot kairos, c'est le mot qui veut dire le temps favorable. C'est donc pas simplement le temps mesuré, le temps tel qu'il s'écoule, tel qu'il est indiqué par nos montres, c'est le temps favorable, tout comme ce moment de l'Avent que nous vivons, dans lequel nous rentrons aujourd'hui, est un temps favorable. C'est le temps dans lequel les nations, c'est-à-dire les païens, nous tous, vont se convertir. Et alors ce temps s'achèvera précisément par le fait que Israël, aveuglé et rebelle depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, reviendra et se convertira à son tour. Et alors seulement viendront tous les signes, immédiatement avant-coureur du retour du Messie, ces signes qui sont décrits dans l'Évangile par saint Luc, nous avons entendu ça tout à l'heure, c'est le début de notre Évangile, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, l'accablement des nations à cause de la confusion, à cause du bruit confus de la mer et des flots. Le mot accablement ici est aussi un mot qui est plein de sens. Le latin dit pressura. Vous voyez, les nations, les âmes seront comme pressurées, angoissées, un peu comme peut l'être la mère au moment de l'enfantement quand vient son terme. Il y a une certaine angoisse. Eh bien voilà quelle sera la situation du monde au moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Bossuet applique tout ça, et notamment l'expression tempora nationum, le temps des nations, et tout le contexte qui entoure cette expression, il l'applique à nos âmes, à notre situation, chacun d'entre nous. Ce temps qui nous est donné, c'est le temps pendant lequel nous allons pouvoir nous convertir, nous préparer à la mort, à la venue du Christ pour nous. Nous sommes, nous aussi, comme les gentils, qui ont tout ce temps pour se convertir, et aussi comme les juifs, rebelles, parce que nous sommes des pécheurs, et souvent nous attendons justement le dernier moment. Alors voici ce que dit Bossuet, je vous lis quelques extraits, quelques passages. Il y a un temps des nations, un temps que les gentils, un temps où les gentils doivent persécuter l'Église, un temps où ils doivent y entrer. Et après ce temps, les juifs que les nations devaient jusqu'alors fouler aux pieds, c'est l'expression même de saint Luc, reviendront, c'est-à-dire qu'ils se convertiront. Comme le dit saint Paul, après que la plénitude des gentils sera entrée dans l'Église, tout Israël, c'est-à-dire tout ce qui en restera, sera sauvé. L'aveuglement d'Israël n'a été permis que pour préparer les voies à l'accomplissement d'un si grand mystère. Et alors voici l'application à nous-mêmes. Âme pécheresse, il y a pour toi, malgré tes péchés, une ressource infaillible. L'excès même de ton malheur peut être comme pour Israël le commencement de ton retour. Et quand on souffre, quand on est dans la peine, ben on se souvient que c'est peut-être nos péchés qui en sont la cause et on est porté à se convertir. Israël, fatigué de ses révoltes, de ses malheurs, de sa vaine crédulité et de ses frivoles espérances, las de toujours attendre sans rien voir, de soupirer après un Messie qui ne vient point parce qu'il est déjà venu, se réveillera. Il ouvrira enfin les yeux à la véritable lumière. Alors fais ainsi, âme chrétienne, le péché a eu son temps, le temps que tu y as consumé te suffit pour contenter des désirs frivoles et nourrir des espérances trompeuses, il est temps désormais de revenir de si grands excès. Il faut maintenant revenir à soi et que là où le péché a abondé, la grâce surabonde à son tour. Voilà l'esprit dans lequel nous devons vivre l'Avent. Une autre considération pleine de fruits que nous pouvons faire sur ces textes, c'est de remarquer le contraste très fort, très grand, entre l'annonce des grands bouleversements, nous venons de l'entendre, ces bouleversements qui précéderont le retour du Christ, et puis l'annonce pleine d'espérance du triomphe joyeux de l'Église et des élus. Il y a quelque chose de paradoxal. Avant le retour de notre Seigneur, le monde doit connaître des bouleversements et des douleurs terribles, et pourtant c'est un jour de joie, un jour de triomphe. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. D'un côté, nous dit saint Luc, les hommes sécheront de frayeur. L'expression n'est pas petite, elle dit bien ce qu'elle veut dire. À la vue de tous ces grands cataclysmes qui précéderont la venue du Christ. Et en plus, saint Luc ne le précise pas ici, mais c'est précisé ailleurs, en d'autres endroits de la Sainte Écriture, avant ces grands cataclysmes, l'Église subira de grandes persécutions. une terrible épreuve, une grande confusion. Le Christ trouvera-t-il encore la foi sur la terre lorsqu'il reviendra? Une confusion si terrible que si ces jours d'épreuve n'étaient pas abrégés, dit la Sainte Écriture, les élus eux-mêmes ne pourraient la supporter. Et c'est pour cela que dans sa miséricorde, le bon Dieu abrégera ces jours. Donc voilà d'un côté ce tableau un petit peu terrible, effrayant. C'est la justice de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Et d'un autre côté, le triomphe de l'Église sera si manifeste, si beau, si certain, que les chrétiens doivent être pleins d'espérance et se réjouir à l'avance de la parousie comme d'un jour glorieux entre tous. Saint Luc le dit, nous venons de l'entendre dans l'Évangile, quand ces choses commenceront d'arriver. Donc vous voyez, Saint Luc ne nous dit pas d'attendre, d'être au terme. Quand ces choses commenceront d'arriver, que vous verrez les signes avant-coureurs, regardez et levez la tête. Levate capita vestra, parce que votre rédemption est proche. Et là encore, le commentaire de Bossuet est intéressant et il rejoint tout à fait la pensée des pères. C'est vraiment l'esprit de ces chrétiens de l'Église primitive. Voici ce que dit Bossuet. Regardez, loin de vous cacher dans cette tempête comme un autre Jonas. Vous savez, Jonas, quand la tempête a éclaté, qui était sur ce bateau, il avait fui Dieu parce qu'il ne voulait pas assumer la mission que Dieu lui avait confiée. Cette tempête était un châtiment, c'était à cause de lui. Alors il a demandé aux marins de le jeter à la mer. Il a voulu se cacher. Hein. Loin de vous cacher dans cette tempête comme un autre Jonas. Ouvrez les yeux et considérez ce tumulte d'un regard assuré. Donc ayez la foi dans toutes ces épreuves. Loin de vous laisser abattre, levez la tête et voyez au-dessous de vous, c'est-à-dire considérez tout cela avec un regard surnaturel, un regard de foi, en vous élevant, en vous plaçant au point de vue de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas du tout que les malheurs du temps et toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous serons confrontés encore nous accablent et nous donnent un état d'esprit sombre, pessimiste, je ne sais trop comment dire. L'esprit chrétien n'est pas cet esprit-là. Bossuet continue. Tel qu'un homme qui lève la tête au milieu des flots, tel que celui qui demeure ferme au milieu d'une maison qui s'écroule, tel est le fidèle, toujours immobile et inébranlable au milieu de la nature troublée, parce que le Dieu de la nature le tient par la main. Mettons-nous en état de désirer ce glorieux jour. Puissions-nous être de ceux dont Jésus-Christ dit quand ces choses commenceront à se faire, quand les signes avant-coureurs du dernier jugement paraîtront aux approches de ce grand jour, pendant que le reste des hommes séchera de crainte, regardez et levez la tête parce que votre rédemption est proche. Et Bossuet applique cela encore à nos situations individuelles, singulières, quand approche pour nous l'heure de la mort, de la rencontre avec notre Seigneur. Jésus-Christ arrive pour chacun de nous quand notre vie finit. Alors donc, aux approches de ce dernier jour, quand Jésus-Christ frappe à la porte pour nous appeler, il faudra être en état de le recevoir avec joie et de lui dire que votre règne arrive, car je désire que ce qu'il y a en moi de mortel soit englouti par la vie. Mais il est évident qu'il faut s'y préparer. Ce n'est pas un état d'esprit que nous aurons naturellement. Nous n'avons pas décrit tout ce que les prophéties de l'Écriture nous disent de la fin des temps. Cela demanderait des explications beaucoup plus longues. Le père Emmanuel, le curé du Ménil-Saint-Loup, a écrit de très belles pages à ce sujet que vous pouvez lire. C'est une très bonne lecture pour ce temps de l'Avent. Elles ont été reproduites, rééditées dans le petit livre intitulé « La Sainte Église ». C'est Clovis qui a édité cela il y a déjà plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Et alors le père Emmanuel termine ses explications sur l'Église de la fin des temps en disant « Gardons-nous bien de vouloir préciser les temps et les moments. Ce serait une témérité ridicule. Ne tombons pas dans ce ridicule-là. Nous ne savons pas. Bien sûr, dans les temps actuels, dans les difficultés que nous connaissons, nous pouvons pressentir que ces derniers temps approchent. Mais l'incertitude demeure. Ça n'est qu'une conjecture, un pressentiment. On peut dire d'une certaine manière que peut-être nous vivons comme une répétition générale, mais l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Alors, et c'est cela qui importe, dans cette incertitude, que faire? Alors voici les mots du Père Emmanuel, c'est cela qui importe. Dans cette incertitude, il faut veiller et prier. Veiller et prier parce que les temps sont incontestablement périlleux, parce que le danger est grand à cette époque de scandale de perdre la foi. C'est un des signes avant-coureurs, ça, de la fin des temps. La confusion et la perte de la foi. La foi ne sera plus enseignée comme il faut. Veillez et priez pour que l'Église fasse son œuvre de lumière en dépit des hommes de ténèbres. Hommes de ténèbres qui aujourd'hui peuvent se trouver et se trouvent certainement jusque dans le sein de l'Église, de l'institution. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez en tout temps pour être trouvé digne de fuir ces choses qui surviendront dans l'avenir et de se tenir debout en présence du Fils de l'homme. Se tenir debout en présence du Fils de l'homme, c'est une parole de saint Luc. Pour terminer, évoquons la Vierge Marie. La Vierge Marie est bien présente dans ces trois avènements. On peut dire même qu'elle est sa place est la première place. Pour chacun de ces trois événements, Notre-Dame a un rôle tout à fait unique. C'est elle qui a préparé la première venue du Messie. C'est évident, nous le savons bien, par son fiat et par le fait qu'elle a donné son corps à notre Seigneur Jésus-Christ, elle a un rôle tout à fait éminent dans l'histoire de notre salut, du salut historique. C'est elle aussi, puisqu'elle est la médiatrice de toute grâce, qui préparera nos âmes à recevoir présentement Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, et notamment à bien communier. Il faut demander à Notre-Dame qu'elle nous apprenne à bien communier. Et c'est elle aussi qui nous préparera à l'ultime venue du Christ. Que ce soit pour chacun d'entre nous, quand cette venue se présentera, se produira au moment de notre mort, et puis pour toute l'Église, quand notre Seigneur reviendra à la fin des temps et jugera l'humanité tout entière, la Vierge Marie aura eu un rôle pour préparer l'humanité. Il n'est pas inintéressant de remarquer que les grands dogmes que l'Église a déclarés au sujet de la Vierge Marie sont des dogmes relativement récents. On peut dire qu'il y a là comme une providence, une économie qui a voulu que le dogme de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption, ne soit proclamé qu'en ces temps qui sont les nôtres, qui sont déjà un petit peu les derniers temps sans doute. Pourquoi cela ? Eh bien parce que certainement notre Seigneur veut que le règne du cœur de Marie, du cœur immaculé de Marie, prépare l'avènement de son propre règne, du règne du Sacré-Cœur. C'est elle qui prépare ultimement la venue, le retour de son Fils. Alors demandons-lui pendant tout cet avant qu'elle nous prépare précisément. Nous allons fêter l'Immaculée Conception dans un peu plus de 8 jours, que la Vierge Marie nous prépare à cette fête et que par cette fête, elle nous prépare vraiment à Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.